Eh oui, il y a eu des époques où on était plus jeunes, mon cher Daniel. Hein? À l'époque, celui qui était chargé du culte, il faisait tout du début jusqu'à la fin, pour ceux qui s'en rappellent. Hein? Et après, on a commencé à mettre des programmes avec un président, un prédicateur, etc. Je me rappelle même une fois où Daniel avait oublié de venir, alors que c'était lui qui était le prédicateur. Et donc, j'ai dû embrayer... Et puis voilà, on a continué dans la louange ensemble. Enfin bref, ça s'était bien passé quand même. On ne lui en veut pas, hein. Non. Donc aujourd'hui, vous avez vu les affiches ou les flyers ou les je ne sais pas quoi, enfin voilà, tout ça qui disent. Dans l'Église, il a été souhaité de faire un peu mémoire de cette semaine qu'on appelle la semaine sainte. Donc c'est la semaine qui prépare, qui précède le week-end de Pâques. Donc il y aura un certain nombre de moments dans la semaine qui seront rappelés, je pense, pendant les annonces. Et Daniel a commencé, on s'était réparti la tâche avec Daniel pour que, voilà, on puisse suivre un peu le récit de cet événement qu'on met sous le nom de le dimanche des rameaux, et on va voir pour quelles raisons. Donc voilà, c'est un contexte un peu particulier pour nous, hein, c'est un peu la préparation à Pâques, en quelque sorte. En tout cas, ça permet de faire mémoire d'un certain nombre de choses qui se sont passées pendant la dernière semaine que Jésus a partagée avec ses disciples, et j'allais dire contre ceux qui s'opposaient à lui, avant que ça se termine mal, si j'ose dire. Pour Jésus, c'est l'arrivée à Jérusalem. D'après l'évangéliste Matthieu, c'est la première fois qu'il y vient. Dans les autres évangiles, c'est un peu moins clair. Mais en tout cas, la confrontation avec les autorités devient de plus en plus inévitable. La réputation de Jésus a grandi, mais il a plutôt agi en Galilée. Et là, il arrive, et c'est là que sont les notables, ceux qui savent ce qu'on a le droit de penser et ce qu'on a le droit de dire. Et Jésus veut confronter le message qu'il a reçu de son Père avec ces gens. Et voilà comment arrive cet événement, cette entrée dans Jérusalem que David nous a fait vivre tout à l'heure, où Jésus arrive accomplissant d'une certaine manière la prophétie du prophète Zacharie. Et Daniel a lu Zacharie 9, verset 9, que vous avez encore en tête, et je continue le verset 10, qui dit « Je retrancherai », voilà comment arrive ce roi qui est annoncé, « Je retrancherai d'Éphraïm les chars et de Jérusalem les chevaux, les arcs de guerre seront retranchés, il parlera de paix aux nations, et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre. » Voilà comment Jésus veut arriver, non pas comme un chef de guerre, non pas comme le roi, non pas comme celui qui allait reprendre le pouvoir, mais comme celui qui allait détruire les armes de guerre et avoir un discours de paix. Cette façon de décrire l'entrée de Jésus à Jérusalem est peut-être aussi un souvenir de la manière dont a été intronisé Salomon. Si vous lirez dans le premier livre des rois, au premier chapitre, la manière dont Salomon est devenu roi, on le fait monter aussi sur la mule royale. Hein, voilà, donc c'était quand même des animaux qui étaient, c'était pas seulement des petits, enfin c'était aussi des animaux dont on se servait couramment. Ils montent sur la mule royale de David pour rentrer dans la ville et pour prendre le pouvoir et pour être couronné roi. Donc plusieurs images. Et je vais vous proposer de lire dans l'évangile de Luc. Les quatre évangélistes relatent cet événement, cette entrée de Jésus à Jérusalem qui démarre la semaine dont on parlait tout à l'heure. J'ai choisi de le lire dans l'évangile de Luc, mais on fera des références aux autres versions également. Donc, suite de ce qu'a dit Daniel, ils amènent à Jésus l'anon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Donc Luc 19, pardon, verset 35. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Certains évangélistes rajoutent des branches aussi, des branchages qu'ils mettaient et qu'ils agitaient pour le glorifier. Il approchait déjà Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous les disciples, en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel, gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et dit, « Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux, Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront, te presseront de toutes parts, ils t'écraseront. Toi et tes enfants au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Puis il entra dans le temple et se mit à chasser les marchands, en leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et Jésus enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes, les chefs du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient comment faire, car tout le peuple était suspendu à ses lèvres. Je vous invite à la prière. Seigneur, ouvre nos cœurs pour recevoir ta parole ce matin. Nous voulons penser à ce chemin que tu as fait vers Jérusalem, vers ce qui allait être des heures si tragiques. Merci parce que nous sommes au bénéfice de ce chemin de paix que tu as voulu tracer au milieu d'une humanité qui, bien souvent, s'en montre incapable. Conduis nos pensées ce matin. Amen. Alors, on a vu que, au verset 35, par où j'ai commencé la lecture, on amène un âne. Alors, si vous allez chercher un âne et puis vous l'avez, souvent c'est un peu poussiéreux quand même, hein, c'est sur le dos, ces animaux-là, ils ne prennent pas une douche tous les jours. Et donc, par geste de courtoisie, on commence par prendre des manteaux et les mettre sur le dos de l'âne. Là, jusque-là, on va dire que c'est juste une correction. On va faire monter Jésus sur cet âne. Donc, la moindre des choses, c'est qu'il ne se couvre pas de poussière. Donc, on va protéger Jésus et ses habits quand il va s'asseoir dessus. Mais tout de suite, derrière, d'autres choses arrivent. D'autres choses se passent. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Les gens. Alors, selon les versions, encore, je vais faire des parallèles, vous relirez tranquillement les quatre versions de ce récit dans les quatre évangiles. Les gens, selon les versions, selon les évangélistes, c'est la foule, un mot qui est un peu général, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est les disciples, c'est sans doute plus que les douze, parce que ça ne ferait pas un ramdam pareil, apparemment, ça fait du bruit. Donc, ils étaient plus que douze à l'évidence. Voilà, l'évangéliste Jean, lui, dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient été très impressionnées par la résurrection de Lazare et qui, du coup, s'étaient mis à suivre Jésus en masse et qu'ils étaient présents à ce moment-là. Et puis, dans l'évangéliste Matthieu, il y a même des gens qui sont sans doute juste des curieux et qui disent « Mais qui c'est celui-là » Alors, hein, on n'avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la presse comme on l'a aujourd'hui. Donc, tout ce que Jésus avait fait et dit en Galilée, bah, ça mettait sans doute un certain temps à arriver jusque aux gens du peuple à Jérusalem. Donc, beaucoup de gens ne connaissaient pas Jésus. On l'avait pas vu au journal de 20h, donc on ne savait pas. Faut penser à ça. Quand Jésus arrive à Jérusalem, pour certaines personnes, c'est vraiment un étranger, quelqu'un dont on ne sait pas grand-chose. En tout cas, quels que soient les gens qui sont venus là, il se passe quelque chose. On fait le tapis rouge, enfin on déroule le tapis rouge, comme pour ton général de Gaulle. Là. Je suppose que quand il est arrivé à la mairie, il y avait un tapis correspondant à son rang. Et là, c'est pareil, d'une certaine manière, les gens étendent des manteaux, ils prennent des branches, ils les mettent sur le chemin pour faire un tapis pour honorer la personne. C'est pour ça que j'ai proposé qu'on chante ce chant « Laissons entrer le roi de gloire », ce qui me semblait... Imaginez comme ça dans notre tête un petit peu ce qui pouvait se passer autour de Jésus. Il chantait des choses équivalentes, quoi. C'est pas tout à fait les mêmes références, mais ça voulait dire à peu près ça. Alors, cette entrée, il y a plusieurs images qui viennent, et j'ai cherché un petit peu, là, des images qu'on mettait autour de des rameaux. Ils prennent des branches, d'après Marc, d'après Matthieu, d'après Jean, en plus des manteaux, et c'est un peu comme on faisait pour la fête de Soukhot. Soukhot, hein, c'est la fête des cabanes, ou je ne sais plus comment on appelle ça, quelque chose comme ça, qui habituellement a lieu plutôt après les récoltes. Hein, c'est une fête de remerciement pour les récoltes. Et donc, c'était un peu une tradition, une façon d'acclamer le Seigneur. Et je vous lis ce que j'ai trouvé, un peu qui peut être intéressant pour justement décrire cette foule qui était là et qui se livrait à ces gestes et qui était sans doute assez variée. Comme je l'ai dit. Et la fête de Soukhot, il y avait quatre types de branchages différents. Dans la nature, il y a des branches qui portent des fleurs très odorantes, mais qui n'ont pas de fruits, comme la myrrhe ou le seringa, par exemple. Il y a d'autres branches qui fleurissent, on ne le voit pas, puis tout d'un coup, il y a des fruits qui arrivent. Ça, c'est le cas du dattier. Ça, je ne savais pas ça, je ne sais pas si vous saviez, mais voilà. Il y a aussi des plantes qui n'ont ni fleurs, ni fruits, comme le saule par exemple, ou au contraire des plantes qui ont à la fois des fleurs très extraordinaires et des fruits généreux, comme, et l'exemple qui est pris dans ce texte, le cédra, qui est une espèce d'agrume, hein, de citron. Et donc la tradition voulait qu'on prenne des branchages qui représentent ces quatre types de branchages, parce que dans la vie, il y en a qui sentent très bon, les fleurs, c'est souvent le symbole de la prière ou de la relation, le parfum qui monte jusqu'à Dieu. Donc il y a des gens qui ont une vie de prière, mais assez peu d'activité, d'action. Là où il n'y a pas de fleurs, mais des fruits, ben, c'est des gens qui sont tout le temps dans l'action. Et puis il y a des arbres ou des branchages qui n'ont ni fleurs ni fruits. Peut-être c'est nous, hein. On est un peu pauvres sur la prière. Et puis du côté de l'action, au service des gens, on n'est pas forcément excellent. Et puis il y a au contraire ce qui est à la fois odorant par les fleurs et qui donne des fruits. Et cette manière de célébrer cette fête de Soukhot montrait que voilà, qui que nous soyons, quelle que soit notre vie, nous sommes invités à venir comme nous sommes et à nous laisser gagner par cette louange du Très-Haut que tout le monde partage. Je ne suis peut-être pas comme les autres, j'ai une vie qui est différente. J'ai un parcours qui est différent, je suis la foule, je suis les disciples, je suis les curieux, tous ces gens qui viennent voir Jésus, et ces gens-là, ils sont tous invités à participer à ce moment de louange pour le Seigneur. Ce matin, j'ai lu un petit quelque chose que je vais vous lire. Je lis souvent ce petit bouquin-là, une minute pour chaque jour. Ça ne mange pas de pain, c'est pas long. Il y a des fois des jolies images. Et c'était justement le 2 avril, c'est aujourd'hui, je crois, c'est ça. Donc, ce que dit ce petit texte, son rêve, il parle d'une vieille dame, d'une dame, c'était d'aller à Jérusalem. Elle voulait mettre ses pas dans les pas du Christ. Ses enfants, qui étaient devenus grands, avaient pris une boîte sur laquelle ils avaient écrit Jérusalem, et puis de temps en temps, ils mettaient un billet pour lui préparer les moyens de faire son voyage à Jérusalem. Mais elle est tout le temps en train d'aider quelqu'un. Alors elle va piquer dans la boîte pour aider les gens. Puis elle dit, bon, ça fait rien. J'irai l'année prochaine. C'est une prochaine fois que j'irai. Je prends ça parce qu'il y a quelqu'un qui en a besoin, etc. Et puis, cette fois, elle est malade. Une maladie qui lui laisse peu d'espoir de faire son long voyage. Et elle se désole. Elle dit, je ne marcherai jamais là où le Christ a marché. Alors un de ses fils vient la voir et lui dit, sauve-toi peut-être, mais nous tous ici, nous savons que chaque jour de ta vie, tu as déjà mis tes pas dans ceux du Christ. Alors la boîte marquée Jérusalem, elle ne servira plus pour un voyage, mais comme chacun réalise mieux maintenant que les pas du Christ commencent ici, devant la porte, les jeunes continuent à y mettre des billets. Et elle, qui a toujours des gens à aider, continue à puiser dans la boîte. S'approcher de Jésus, c'est mettre ses pas dans le sien, c'est pas forcément aller à Jérusalem, et c'est peut-être des gestes de tous les jours. Et cette entrée de Jésus à Jérusalem, cette louange qui montait pour l'acclamer, nous rappelle cela. Une autre image qui vient, c'est ces gens qui enlèvent leur manteau, il y a quelque chose qui va leur manquer, leur manteau. Ils ne l'ont plus. Ils se dépouillent d'eux-mêmes, en quelque sorte. Ils enlèvent ce qui est utile, quand même, un manteau. Et ça nous fait penser à d'autres événements. Un jour, Jean-Haut avait fait une prédication, dont je me rappelle, sur Bartimée, l'aveugle au bord du chemin. Et quand Jésus l'appelle et lui dit « Faites-le venir », je me rappelle très bien un peu l'insistance que tu avais mise sur le fait qu'il jette son manteau pour y aller. Il se débarrasse de ce qui l'handicape, de ce qui l'empêche peut-être de bouger pour y aller. Et les gens qui mettaient leur manteau sur le chemin, d'une certaine manière, ils se dépouillent de ce qu'ils sont, ils se dépouillent de ce qui bloque leur vie quelque part sur le chemin, parce qu'ils veulent aller à la suite de Jésus. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Galates, et il parle plus spécifiquement du baptême, mais il dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ ». Donc cette image aussi des gens qui se dépouillent de leur manteau pour faire le tapis rouge à Jésus, nous fait penser aussi à ce que nous avons besoin d'abandonner quand nous voulons venir nous rapprocher de lui pour l'adorer, pour l'honorer, pour le suivre, pour marcher dans ses pas, comme la personne dont on racontait l'histoire. Et alors la joie éclate, elle est grande apparemment, ça fait du bruit. Et là aussi, il y a des motivations diverses. Il y a des gens qui font juste, comme on l'a fait là, pendant la première partie du culte, chanter ces chants qui nous font du bien, même les anciens. Des chants qui nous rappellent des paroles fortes, ou peut-être qui nous rappellent un jour où on l'a chanté dans une situation particulière et où Jésus nous a parlé. Et c'est un peu comme ces gens qui citent le psaume 118, « Béni soit celui, le roi qui vient au nom du Seigneur ». Et on pourrait lire quelques versets dans le psaume 118, un peu plus que ce chant. « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a répondu, il m'a mis à l'aise. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. Éternel, accorde le salut, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. » On lit ça comme un texte, mais c'était des poèmes qui étaient faits pour être chantés. C'était l'équivalent de nos paroles du j'aime 1, 2, 3, etc., 4, ce qu'on a chanté ce matin. Des gens qui sont des artistes et qui vont écrire des paroles, et ces paroles nous marquent, nous frappent. Donc parmi ceux qui étaient là, certains étaient peut-être juste là parce qu'ils trouvaient entraînant les chants religieux qui étaient chantés, basés sur ce psaume entre autres. Il y en a d'autres qui voient Jésus, enfin arrive le règne de David, qui se renouvelle. C'est plus particulièrement l'évangéliste Marc dans son récit de ce moment. Les foules criaient... attendez voir, est-ce que c'est bien... Oui, je me suis trompé d'évangile. Donc c'est Marc 11, verset 10, excusez-moi. « Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre père. » Voilà, il y a des gens qui ont cette envie, qui avaient cette envie. Peut-être espéraient-ils que Jésus va prendre le pouvoir. D'autres, je l'ai dit tout à l'heure, font le lien avec d'autres miracles, en particulier la résurrection de Lazare. Et puis enfin, il y a quand même les pharisiens, des gens un peu raisonnables, un peu sérieux. Arrêtez tout votre bruit, quand même. Forcément, vous allez chanter beaucoup, puis il y en a bien qui vont dire des blasphèmes, ou qui vont dire des choses qui ne vont pas. Donc, on a les pharisiens qui sont là aussi, qui assistent. Mais comment répond Jésus ? Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Rien n'arrêtera la louange qui est due au Seigneur. S'ils se taisent, les pierres crieront. Et quand nous chantons la louange au Seigneur, soyons vraiment conscients que c'est quelque chose d'extrêmement important qui monte jusqu'au ciel et que rien ne peut arrêter, parce que ce Dieu en qui nous croyons, qui a envoyé son Fils Jésus, dont on parle pendant toute cette semaine, c'est quelqu'un qui mérite notre louange et tout ce que nous pouvons lui donner. Alors rien ne peut l'arrêter. Et parfois nous l'arrêtons nous-mêmes, parce que nous n'osons pas, ou parce que notre vie est un peu compliquée et que nous ne sommes pas dans une atmosphère de louange. Et pourtant, si on se tait, les pierres vont crier. Il y a d'autres passages où Jésus est un peu repris par des gens qui lui disent « Mais silence, un peu moins de bruit, etc. etc. » Et il dit, mais dans l'évangile, dans le récit que Matthieu fait des rameaux, un peu plus tard, il y a des enfants qui sont dans le temple et qui continuent à chanter les chants « Hosanna, Hosanna, etc. » Et on lui dit « Mais tu vois pas, il y a même des enfants. » Et il dit « Mais vous n'avez pas entendu dire que par les enfants tu chantes les louanges ?» Et donc ça c'est dans Matthieu 21. Rien n'arrêtera la louange qui est due au Seigneur. Alors voilà, c'était la première séquence de ce récit, puis on va continuer. On voit quelques éléments. Rencontrer Jésus, d'abord, c'est la joie. Voilà. Est-ce que notre vie marque cette joie ? Laissons entrer le roi de gloire, c'est un chant joyeux qu'on a chanté tout à l'heure. Les raisons de se réjouir peuvent être variées dans notre vie, des fois elles sont maigres. Des fois, il y en a peu, ou des fois, elles sont obscurcies par d'autres choses qui viennent un peu ternir cette joie. Parfois, la joie, c'est simplement d'être là aujourd'hui, par exemple, dimanche matin, si ce n'est pas si extraordinaire. Je pense toujours à l'apôtre Paul. Il est en prison, il sent bien que ça ne s'arrange pas, et que c'est de plus en plus compliqué. Et dans l'Épître aux Philippiens, c'est ces paroles que vous connaissez par cœur, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Apprenez ces textes par cœur. Je crois que je le répète un peu ce que je dis, mais je le dis souvent. Mais c'est important que ces textes-là résonnent dans nos têtes. Parce qu'au jour où le vent souffle, le jour où c'est compliqué, on peut s'accrocher à ces paroles-là, parce que ce sont des paroles de vérité. Et alors cette joie que nous avons quand le dimanche matin, on vient tous ensemble, on est galvanisés, ça, il faut qu'elle dure le lundi, puis le mardi, puis le mercredi, puis etc. N'oublions pas que vraisemblablement, parmi la foule des gens qui se sont joints à l'exubérance de l'entrée de Jésus à Jérusalem, une semaine après, il y en a, on ne sait rien, on peut l'imaginer, il y en a certains qui ont crié aussi « Crucifie-le ». La foule est versatile. La foule se trouve qu'il y a un événement festif, on y va, on se joint et puis on chante avec tout le monde. Puis une semaine plus tard, on a changé d'avis. Alors la joie que nous voulons avec le Seigneur, il faut que ce soit une joie qui dure. Et pour pouvoir véritablement rencontrer Jésus en vérité, on a vu que nous sommes invités à nous dépouiller de ce qui nous entrave, ce qui bouche notre vue, ce qui bouche nos oreilles. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est dans la première épître de Pierre au chapitre 5. Et puis la deuxième séquence de ce récit dont je voulais parler, enfin c'est la troisième si on dit que la première c'est celle que Daniel nous a décrite tout à l'heure, elle commence au verset 41. Lorsqu'il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et il dit « Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. » Je trouve que c'est un des textes les plus émouvants de l'Évangile. Jésus pleure. On ne voit pas souvent pleurer dans les évangiles. Hein. À ma connaissance, il n'y a que deux événements. Hein. C'est au moment de la résurrection de Lazare, quand tu vois les sœurs de Lazare qui sont désolées, désespérées, et Jésus pleure. Et puis Jésus pleure là. Est-ce que Jésus pleure parfois sur nous, sur nos vies, sur ce que nous sommes? Parce que là, il pleure sur cette ville, non pas juste parce qu'elle n'est pas belle et qu'elle ne lui plaît pas, mais parce qu'il dit là, ils sont en train de rater quelque chose. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils sont en train de rater quelque chose. Est-ce que Jésus pleure parfois sur notre Église, sur notre société, sur ma vie, ma famille? Chaque fois que nous lâchons sa main, chaque fois que nous choisissons un autre chemin, est-ce que ce n'est pas un moment où, en quelque sorte, nous faisons pleurer Jésus? Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 63, un texte qui a été repris après par l'apôtre Paul dans les Éphésiens, je rappelle les actes bienveillants de l'Éternel, tout le bien que l'Éternel nous a fait, je lis un peu en diagonale, dans toute leur détresse qui était pour lui une détresse aussi. L'ange devant sa face les a sauvés, dans son amour, il les a rachetés, mais, Ésaïe 63, verset 10, ils ont été rebelles et ils ont attristé son Saint-Esprit. Alors il devint un ennemi. Et dans l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est ce qu'on trouve au verset 4, au chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soient ôtées du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Voilà pourquoi Jésus peut parfois pleurer sur nous, si nous manquons par rapport à, par exemple, tout ce qui est listé ici. Est-ce que nous sommes suffisamment capables de nous faire grâce réciproquement? Est-ce que nous savons faire taire la calomnie? Est-ce que l'amertume n'est pas des fois un peu dans le fond de nos cœurs? Et à ce moment-là, Jésus pleure sur le fait que nous sommes en train de passer à côté de quelque chose. Ce que dit le récit qu'on a lu tout à l'heure, Jésus pleure parce que, dit-il à Jérusalem, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus était pourtant présent, il était visible, il prêchait librement, on l'entendait, il faisait des miracles, il a une vie toute remarquable. Il est chargé de cet espoir immense qu'il a suscité au cours de sa vie publique. Il s'est mis à l'écoute des gens, il les a soulagés. Serait-il le Messie? Mais vont-ils y croire? Jésus monte à Jérusalem, chargé des attentes d'un peuple en détresse, et chargé aussi de la mission qu'il a, de faire éclater la vérité et la justice de Dieu. Ceux qui le suivent vont-ils le comprendre? Est-ce que nous sommes capables de voir, de connaître le temps où nous sommes visités? Pas très clair cette expression, mais peut-être quelques exemples dans l'Évangile ou dans le Nouveau Testament, en tout cas, nous aident à le voir. Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, quand l'ange vient lui annoncer qu'il va lui arriver un truc bouleversant et inattendu. Siméon, ce monsieur dans le temple, qui dit, voilà, maintenant, mes yeux ont vu ton salut, parce qu'il a reconnu dans cet enfant celui qui allait sauver apporter le salut, pardon. L'apôtre Pierre, quand il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », véritablement, il exprime qu'il a compris que c'était, il a rencontré le Christ. Et j'aime bien toujours dire de Pierre, ça nous rassure, parce que ça ne l'a pas empêché de dire des bêtises après. Donc, il était, ça ne veut pas dire qu'il était devenu un personnage qui était hors de tout risque. Le brigand sur la croix, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Le centurion au pied de la croix, réellement cet homme était juste. Tous ces gens-là qui ont été rencontrés par Jésus, ils ont su capter, voir ce moment-là et voir qu'il vivait quelque chose qui devait être conservé, qui allait modifier leur vie. Et puis l'Évangile nous montre aussi quelques échecs. Le jeune homme riche, hein, donc, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les intitulés de nos Bibles, qui vient discuter avec Jésus un bon moment, et puis Jésus lui demande quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, et il s'en alla tout triste. Pilate, une longue discussion avec Jésus, si vous voyez, pendant le procès, là on en reparlera peut-être dans la semaine. Et puis à un moment, Pilate s'arrête sur cette « qu'est-ce que la vérité ?» Je ne peux pas aller plus loin que mes cogitations philosophiques. Je n'accepte pas que tu sois celui qui représente la vérité, dit-il en quelque sorte à Jésus. Et puis Judas, bien sûr, qui a pourtant vécu proche de Jésus pendant 3 années, quelque chose comme ça, et qui, à un moment, la Bible nous dit que Satan entra dans Judas. Dans l'évangile de Jean, au tout début de son évangile, vous connaissez ces textes où l'évangéliste dit « Il était la véritable lumière qui est venue dans ce monde. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. » Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous puissions être de ceux-là, et non pas de ceux comme la ville de Jérusalem, qui n'étaient pas en capacité de voir qu'ils étaient visités par quelqu'un qui était Dieu lui-même. Alors, Jésus pleure sur nous, il pleure sur ce que nous faisons, il pleure quand nous n'osons pas le suivre, quand nous le trahissons, il pleure comme il a pleuré sur Jérusalem, qui ne l'y voyait pas clair. Alors voilà ce que nous apprend peut-être la deuxième séquence, ou la troisième, donc j'ai dit, il faut rajouter en un, c'est l'annonce, c'est Daniel, et après deux et trois, c'est ce que je disais là. Soyons attentifs pour discerner quand Jésus vient nous visiter, ce récit-là nous le rappelle, même si c'est au milieu de notre vie, de tous les jours, croyons qu'il ne se passe pas un jour sans que le Seigneur nous dise quelque chose, par une lecture, une rencontre, une pensée, une musique, quelque chose comme ça. Le Seigneur va être présent à nos côtés, instant, tous les jours de notre vie, et il va nous aider à passer au travers des moments qui sont moins agréables que d'autres. Et puis j'ai terminé, vous avez vu que je n'ai pas arrêté la lecture au strict récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, mais je l'ai laissé arriver, passer la porte, arriver dans le temple, et là qu'est-ce qu'il fait? Il se met à chasser les marchands du temple. Et en quelque sorte, ça y est, la confrontation démarre. Et Jésus avait vraiment une parole de vérité à dire aux gens. On ne va pas commenter très, très longtemps, mais si vous lisez les versets qui suivent, très vite après les vivas, les hosannas, les béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, la bagarre commence. La bagarre de l'exploitation qui a été faite de la richesse ou des pauvres, etc., qui fait qu'on a transformé les abords du temple en un supermarché. Puis après, il y a un débat houleux de Jésus sur d'où te vient cette autorité. Hein, vous lirez ce récit où Jésus les mouche un peu les gens qui essayent de le piéger. Après, il y a la parabole des vignerons qui finissent par tuer l'envoyé du maître et qui clairement visent les gens qui sont là en face de lui et qui vont s'opposer à lui. Jésus est arrivé à Jérusalem, hein, il a fait ce chemin, mais son chemin ne se termine pas sans doute. Là, on le sait bien, son exode est encore long à venir, puisqu'il y aura un certain nombre d'événements avec ses amis quand même. Hein, il va leur laver les pieds, il va faire ce dernier repas avec eux. Et puis après, la trahison, l'arrestation, le procès, la crucifixion, la mort. Et pourquoi est-ce que nous parlons de tout ça aujourd'hui, si finalement Jésus est mort et que ça s'est mal terminé? C'est le premier chapitre d'une mauvaise histoire qui se termine mal. Sauf que si nous racontons cela aujourd'hui et encore, nous le ferons année après année, c'est parce qu'il n'est pas seulement un Christ crucifié, mais il est aussi le Christ ressuscité. Parce que pour nous, la Semaine Sainte, elle, bien sûr, elle rappelle un certain nombre de choses, parce que ça nous permet de mieux voir comment Jésus était au milieu des gens, au milieu du peuple, au milieu de cette foule, au milieu de ces gens qui, pour certains, le soutenaient, d'autres le haïssaient, d'autres ne savaient pas trop comment se situer. Hein. Rappelez-vous les quatre branchages différents. Il y en a qui ont des fleurs, il y en a qui ont des fruits, il y en a qui ont d'une année l'autre. Voilà, il y avait plein de personnes. Mais au bout du compte, il a été mis à mort d'une façon honteuse. Et puis trois jours après, et c'est ce qu'on célébrera dimanche prochain, et c'est ce que veut dire cette affiche que je vous ai montrée tout à l'heure, et que, là, je ne sais pas où elle est passée, mais qui s'intitule... Quoi ? Ah, merci. Bon, je croyais que vous dormiez tous. Non, c'est bon. Voilà un petit peu ce que m'a dit ce texte, moi, quand j'ai voulu le regarder un peu en détail. Comment nous approchons-nous de Jésus? Eh bien, comme nous sommes, il ne trie pas a priori. Mais pour s'approcher de lui, dépouillons-nous de ce qui nous empêche d'y aller. Sachons nous laisser saisir par cette joie qui est en lui, avec tous les moyens que chacun a les siens. Mais Jésus peut nous parler, nous aider à rentrer dans cette joie. Et puis que cette joie puisse durer, qu'elle aille au-delà de l'instant où nous sommes saisis par quelque chose. Et que, comme j'ai dit tout à l'heure, le lundi, le mardi, le mercredi, etc., etc., puissent continuer à vivre dans la joie du Seigneur, en lui faisant entièrement confiance. Et puis quand il va venir nous rencontrer, dans cette semaine qui s'ouvre pour vous, par une rencontre, hein, par une parole, par une information à la télévision, je ne sais pas, par n'importe quoi, Jésus va venir nous rencontrer, nous dire quelque chose. Soyons attentifs, sachons saisir l'instant, sachons voir que nous sommes visités et qu'il a quelque chose de particulier à nous dire pour nous nourrir, pour nous faire grandir et pour nous permettre de conserver cette joie d'être avec lui. Je vous invite à la prière. Mais Seigneur, nous te demandons de nous aider à transformer nos vies selon ton désir, à nous dépouiller de nos pesanteurs et à savoir t'accueillir jour après jour. Même si cette joie que tu donnes, elle est parfois un peu ternie par les difficultés de la vie, mais toi, tu es toujours présent. Toi, tu es toujours à nos côtés. Et tu pleures parfois parce que nous n'arrivons pas à le voir. Tu pleures parfois parce que nous nous laissons submerger par des contingences matérielles alors que tu veux nous donner une joie qui ne s'arrête jamais. Aide-nous à être attentifs à tes visitations quand tu viens nous rencontrer. Par un frère, par une sœur, par une lecture, par quelque chose, tu vas nous parler encore cette semaine. Nous te demandons vraiment de nous donner des cœurs qui sont toujours prêts à t'accueillir et qui ne vont pas dans quelques jours dire « crucifie-le », mais qui vont continuer à dire « béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Garde-nous encore pendant la fin de cette journée et veuille aussi nourrir par ta visitation ceux de nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous. Là où ils sont, tu connais leurs soucis peut-être, ou leurs occupations, mais que tu puisses en ce jour leur donner quelque chose qui va les nourrir, qui va leur faire du bien. Merci de nous accompagner encore pendant la fin de ce culte. Amen.